I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Joe Manchin, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas voter comme ses camarades démocrates?
C'est un petit peu, non pas le dernier des Mohicans, mais le dernier des centristes.
C'est un peu l'homme qui tient le sort des réformes de Joe Biden dans ses mains.
Aux États-Unis, un seul sénateur vous manque et tout est arrêté. Salut, c'est Xavier Yvon. Cet été, nous vous proposons une sélection des meilleurs épisodes de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Top, je suis un homme politique américain appartenant au Parti démocrate. Né dans les années 1940, j'ai fait l'essentiel de ma carrière au Sénat. Je suis aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde, selon CNN. Mon prénom est Joseph, mais tout le monde m'appelle Joe. Je suis...
Joe Biden.
Raté, je suis Joe Manchin, sénateur de Virginie-Occidentale. Vous ne connaissez peut-être pas Joe Manchin, et pourtant, il est l'homme qui tient entre ses mains l'avenir du mandat de Joe Biden. Dans cet épisode de La Loupe, nous allons vous expliquer pourquoi cet autre Joe est aujourd'hui considéré comme le personnage le plus important de Washington et en quoi il symbolise la crise des institutions américaines.
Bonjour.
Ça va? Il fait quel temps à Washington?
Très beau. Et on a moins de cigales. Il y avait une invasion de cigales. Ok, ça y est.
D'accord, donc c'est bien, ça fait pas de bruit pour nous. Donc tout va bien. Hélène Vissière, tu es notre correspondante aux États-Unis, basée donc à Washington. Avant de nous expliquer pourquoi il a tant de pouvoir désormais à Washington, est-ce que tu peux nous dire qui est Joe Manchin?
Alors, Joe, de son petit nom, il a 73 ans. C'est le plus conservateur probablement des démocrates, donc un ultra-centriste. Il est né dans une petite ville minière, parce que la Virginie-Occidentale, c'est un gros état producteur de charbon. C'était le fils d'un commerçant et d'une famille politique. Ils ont tous été maires dans sa famille. Et c'est aussi un joueur de football américain. Il est entré en politique assez tôt dans l'État. Et puis, il s'est fait élire gouverneur en 2003. Et ensuite, sénateur des États-Unis en 2010.
Quand tu nous dis qu'il est très conservateur pour un démocrate, comment on voit ça? Il a quelle valeur?
D'abord, il est très pro-charbon, évidemment, puisque c'est dans son État. C'est aussi quelqu'un qui est anti-avortement, qui est assez pro-port-arme. Il a fait une pub très célèbre dans laquelle il avait un fusil. But I'll still take on anyone that messes with West Virginia. Il tirait sur un projet de loi démocrate qui ne lui plaisait pas.
Ah oui, carrément.
Et ce projet de loi était sur le climat. I'm Joe Manchin, and I approve this message. Donc, c'est pas un sénateur très vert. Il était contre le retour dans les accords de Paris. C'est un démocrate très conservateur, voire parfois assez républicain.
Donc, son état dont tu as parlé, la Virginie-Occidentale, c'est pas vraiment une terre démocrate?
Non, pas tout à fait. C'est un état qui est très conservateur. En 2020, les dernières présidentielles, Donald Trump s'est imposé avec 39 points d'avance sur Joe Biden. Donc, c'est une terre trumpiste. Et c'est un État qui est très blanc, très pauvre, donc pas du tout représentatif de l'Amérique.
On a donc bien compris qu'on n'avait pas affaire à un démocrate comme les autres. Et Hélène, c'est pour ça que Joe Manchin se retrouve aujourd'hui au centre du jeu politique américain.
Senator Joe Manchin, he's a Democrat. He certainly is a key swing vote.
Senator Joe Manchin, who you need to pass virtually anything right now.
You are about to become one of the most powerful politicians in Washington.
Senator Joe Manchin is a moderate Democrat from the state of West Virginia.
En France, on connaît encore assez mal Joe Manchin. Maintenant, nous, on en sait un peu plus sur lui grâce à toi, Hélène. Mais aux États-Unis, on vient de l'entendre, on en parle énormément. On parle énormément de lui en ce moment. Pourquoi?
C'est un peu l'homme qui tient le sort des réformes de Joe Biden dans ses mains.
Pourquoi?
Pour comprendre, il faut savoir que les démocrates aujourd'hui, ils ont une très faible majorité au Sénat. Ils ont 50 voix sur les 100 Et c'est la vice-présidente Kamala Harris qui fait la différence en votant quand il y a une loi qui est à 50-50. Donc, ils ne peuvent pas se permettre la moindre défection. S'il dit non, le projet de loi va capoter. Joe Manchin en profite pour, quelque part, un peu imposer sa volonté et faire voter des amendements en sa faveur, puisque s'il refuse de voter une loi, il n'y a aucune chance qu'elle soit promulguée.
Oui, et on sait, un seul sénateur vous manque et tout est arrêté. Aux États-Unis, le Sénat, c'est la chambre la plus importante. Hein. Sans le Sénat, aucune loi, aucune réforme ne passe. On se souvient d'ailleurs de la fin du mandat de Barack Obama avec un Sénat républicain. Alors, quelle réforme Joe Manchin a-t-il pour l'instant bloqué ou est-il en train d'empêcher ?
Alors, pour l'instant, il a eu quelques amendements sur le plan de relance économique qui a été voté il y a quelques mois. Mais surtout, il y a en fait toutes les réformes de Joe Biden qui sont dans la balance, aussi bien le plan sur les investissements en infrastructure que la réforme sur le port d'armes, que l'immigration, que la maternelle universelle et les investissements dans les universités. S'il décide que les textes ne lui plaisent pas, il ne va pas les voter.
Il va tout bloquer. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas voter comme ses camarades démocrates ?
Il y a clairement un calcul électoral. Il vient d'un État très conservateur. Donc, il a intérêt à montrer qu'il n'est pas à la botte du Parti démocrate qui a tendance à être à virer de plus en plus à gauche. Mais il y a aussi une conviction qu'un projet de loi doit être voté par les deux partis. Il a cette idée que le Sénat devrait être un endroit où les deux camps débattent de manière civile et arrivent à des compromis. Alors, évidemment, ses collègues démocrates, ça les enrage parce qu'en fait, depuis maintenant des décennies, le Parti républicain joue de moins en moins le jeu démocratique et fait de l'obstruction systématique. Donc, en fait, l'idée qu'on arrive à un compromis, c'est de l'utopie.
If I'm in a position that I can make a difference, by bringing this country back together and making us work in a bipartisan, I'll use it for that.
Cet esprit bipartisan, c'était un peu la marque de fabrique. D'ailleurs, c'est intéressant de Joe Biden, quand lui-même était sénateur, il était connu pour faire des compromis avec les républicains et arriver à fabriquer des lois donc bipartisanes. Joe Biden, maintenant, il est à la Maison-Blanche. Et qu'est-ce qu'il peut faire face à cette résistance d'un Joe Manchin ?
Il a guère de moyens de pression parce qu'en fait, Joe Manchin, il est un peu intouchable dans son État. C'est donc le seul démocrate élu. Il est très conservateur. Il est assez populaire. Et il ne va pas pâtir de son opposition aux réformes démocrates électoralement. Ses électeurs vont pas le... Il ne va pas perdre le vote de ses électeurs parce qu'il se montre conservateur. Dans un sens, en fait, le Parti démocrate a plus besoin de lui que lui a besoin du Parti démocrate.
Est-ce que Joe Biden a parlé directement avec Joe Manchin ?
Oui, ils se parlent régulièrement et Manchin est vraiment très important pour la Maison-Blanche. La position des pontes du Parti démocrate et de la Maison-Blanche, c'est de le caresser dans le sens du poil, d'essayer d'éviter de l'attaquer trop violemment, histoire de ne pas le braquer ou même, pire, de l'encourager à changer de parti.
C'est déjà arrivé ça ?
C'est déjà arrivé en 2001. Il y avait un sénateur républicain, Jim Jeffords, qui était du Vermont, qui, à la suite d'une campagne contre lui de la part de ses collègues républicains, a abandonné le parti. Il est devenu indépendant, mais en votant côté démocrate. Et ça a fait basculer la majorité au Sénat, qui était extrêmement serrée, comme dans le cas actuel. Et du coup, ce sont les démocrates qui se sont retrouvés en contrôle du Sénat.
Comment ils le vivent, ces camarades démocrates ? Comment ils réagissent à ce que fait en ce moment Joe Manchin ?
L'aile gauche du parti, notamment, le porte pas trop dans son cœur. Ça les enrage, le fait que un sénateur, en plus très conservateur, tienne en otage les réformes de Biden, c'est exaspérant. Mais en plus, qu'ils viennent de Virginie-Occidentale, qui est un des États les plus petits, les plus blancs, les plus pauvres du pays, et que cet État dicte la politique américaine, ça les exaspère.
Merci Hélène. Hélène Vissière, correspondante de L'Express aux États-Unis. Grâce à toi, on a un peu mieux compris ce qui se jouait entre Joe et Joe à Washington. D'ailleurs, à force de parler des deux hommes, il arrive qu'on s'en mêle un peu les Joe. Écoutez.
Et Joe Biden trouve que le texte est un peu trop ambitieux, donc il a...
Joe Manchin.
Hop.
Tu vois, on confond les deux. Joe Biden, Joe Manchin, on ne sait plus qui est le plus fort.
Donc, Joe Biden... On recommence. Joe Manchin, Joe Biden,
quel que soit le vainqueur à la fin, cette bataille politique en dit long sur l'état de la démocratie américaine. On va vous expliquer pourquoi. Pour continuer à comprendre ce qui se passe à Washington, on a fait appel à Corentin Célin. Il est historien, spécialiste des États-Unis et chroniqueur pour le site Les Jours. Et il disait ceci sur France Culture dès décembre dernier.
Ce n'est pas une majorité qui obligera en particulier les démocrates à faire grande attention à un sénateur de leur rang, le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale.
Attention donc à Joe Manchin, Corentin Célin, de voir un seul sénateur tenir entre ses mains l'avenir de tout le pays, du mandat de Joe Biden. Ça dit quoi sur les institutions américaines ?
On voit bien qu'il y a une crise sur le fonctionnement du Sénat, qui a longtemps été, du moins se plaisait-il à le croire, une institution de compromis, une institution de consensus. Et durant la dernière décennie déjà, ça s'est perdu.
Ça s'est perdu pourquoi ?
Premièrement, à partir de 2009-2010, une radicalisation à droite des conservateurs républicains, avec, on s'en souvient, le Tea Party, la vague des Tea Party lors des élections de 2010, l'élection de Trump en 2016, qui a durci à droite les républicains du Sénat, évidemment, qui a rendu de plus en plus difficile la recherche de compromis. On peut noter, c'est moins marqué, mais c'est en cours également, la même poussée vers la gauche des sénateurs démocrates. Et de ce point de vue, Manchin semble un vestige de l'époque révolue, puisque c'est un petit peu, non pas le dernier des Mohicans, mais le dernier des centristes. C'est-à-dire élu démocrate d'un État conservateur, il doit donc chercher en permanence des ponts avec les républicains, sauf que le pont ne mène nulle part, puisque en face, chez les républicains conservateurs, il n'a plus vraiment d'homologue capable de voter pour Biden, ou au moins pour une partie de l'agenda de Biden.
Donc il y a Manchin, et puis il est au milieu de deux blocs fracturés, les démocrates, les républicains. Puisque les institutions dont on vient de parler, le Sénat notamment, ont été pensées pour favoriser les compromis, comment on fait quand il y a désormais une telle polarisation entre les démocrates et les républicains et plus de dialogue possible ?
On a un point de blocage dans la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution a sanctuarisé les deux sénateurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est totalement bloqué.
Corentin Célin, il faut rappeler cette règle, que chaque État américain est représenté par deux sénateurs, quelle que soit sa population. C'est-à-dire, autant la Californie démocrate, ultra-progressiste, qui a 40 millions d'habitants, a deux sénateurs, mais le Wyoming, qui a 66 fois moins d'habitants, a aussi deux sénateurs. Il faut bien rappeler ça. Donc, il y a une disproportion de représentation.
Le problème, c'est que l'article 5 de la Constitution met une barrière quasi infranchissable. Toute réforme directe du Sénat paraît aujourd'hui impensable.
Certains démocrates avancent une autre solution assez radicale, ce serait de créer des nouveaux États, donc de nouveaux sénateurs, et notamment en donnant le statut d'État à la capitale fédérale, Washington DC.
Should Washington DC become a state tomorrow? The House is voting on a statehood bill for the first time since 1993.
Sont vent debout contre le statut d'État de Washington DC, de la capitale fédérale, parce qu'ils ont bien compris que cela signifierait donner deux sénateurs supplémentaires aux démocrates. On rappellera que à Washington DC, Biden a fait 89% des voix et que les républicains n'existent plus là-bas que sous forme de traces. Donc, on sait bien que Washington DC État, ça veut dire deux sénateurs démocrates supplémentaires.
Vous l'avez dit, Joe Manchin, c'est un vestige d'une époque qui n'existe plus, une anomalie. On essaye de voir ensemble quelle pourrait être l'évolution des institutions américaines. Alors, changer les règles du Sénat, c'est compliqué. Changer l'attribution du nombre de sénateurs, c'est impossible. Rajouter des États, ça paraît extrêmement compliqué. Quelle évolution on peut voir dans le paysage politique américain dans les années à venir ?
Il faut regarder si cette crise du Sénat ne peut pas être résolue, entre guillemets, naturellement, par le réalignement géographique et démographique des deux parties. On voit déjà une recomposition de la carte électorale. À l'ouest, un État comme le Colorado, un État comme l'Arizona, on l'a vu lors de ces élections, sont en train de glisser vers une majorité démocrate solide. Et on sait que dans le nord-est, c'est déjà le même phénomène qui a eu lieu. Et donc, il y a un risque pour les républicains de se retrouver de plus en plus cantonnés au sud et au sud profond, et dans les petits États ruraux des plaines, comme le Wyoming, le Nebraska, les Dakota, mais d'être vraiment limité à ces bastions, et on pourrait aller sur le long terme vers une majorité assez stable des démocrates au Sénat, si les tendances de vote des nouvelles minorités issues d'immigration, et en particulier des Asiatiques, se confirme.
On se retrouverait donc avec des blocs géographiques, en fait, qui pourraient presque s'affronter.
Il y a un enracinement géographique et des États-Unis qui se divisent géographiquement, bloc contre bloc. Et ça, c'est très inquiétant en termes de concorde civile. On a vu récemment, par exemple, des habitants de cantons ruraux de l'Oregon évoquer leur volonté d'être rattachés à l'Idaho voisin pour être avec des républicains et ne plus être sous la domination d'un État qui est très majoritairement démocrate. Je crois que c'est une menace très réelle, presque pour la paix civile aux États-Unis, c'est qu'on revient, comme au XIXe siècle et à l'époque d'avant la guerre civile, de la guerre de sécession, à un enracinement géographique des partis. C'est potentiellement très dangereux et en tout cas très inquiétant.
D'une guerre des Joe à un risque de guerre civile ou en tout cas une menace pour la paix civile. Merci Corentin Célin.
Merci.
On verra si les démocrates arrivent un jour à ajouter des étoiles au drapeau américain. En attendant, vous pouvez toujours nous en mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute si ça vous a plu, vous abonner et en parler autour de vous. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.